France Culture.
Voilà 18h sur France Culture. Le journal Servane de Pastre. Bonsoir Servane.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. En Argentine, les électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui pour les élections législatives. Un test pour le président Javier Milei qui pourrait perdre sa marge de manœuvre. C'est un missile unique que la Russie dit avoir produit. Sa portée est illimitée selon Vladimir Poutine. La phase de test est terminée. On vous en dit plus dans ce journal. Et puis, le calme avant la tempête à l'Assemblée nationale après un jour de pause aujourd'hui. Les débats doivent reprendre demain sur le budget 2026. C'est demain aussi que le projet de loi de financement de la sécurité sociale arrive sur la table de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale et son contenu inquiète les associations, vous l'entendrez. Les bureaux de vote ont ouvert à la mi-journée en Argentine pour des élections législatives de mi-mandat. Ce scrutin est un premier test pour le président ultralibéral Javier Milei. Selon les résultats, il risque de perdre sa marge de manœuvre pour faire passer ses réformes, mais aussi le soutien du Trésor américain. Le reportage de Caroline Vic à Buenos Aires.
Les rues de Buenos Aires sont particulièrement animées en ce dimanche ensoleillé. Contents d'aller voter, les Argentins se rendent sereins dans leur bureau de vote. Ils savent que leur vote est un message passé au gouvernement. Cristina, 51 ans.
Como docente de la UBA, nunca hemos tenido un sueldo.
Je suis professeure à l'université de Buenos Aires et je n'ai jamais eu un salaire aussi bas. Les facultés sont dans un état lamentable. C'est la même chose dans les hôpitaux. Les médecins, les infirmiers gagnent une misère avec de moins en moins de moyens. Le pays va mal, très mal, et c'est pour ça que c'est important que les gens puissent et veuillent aller voter.
La campagne a laissé peu de place aux petits partis car Milei a suivi une stratégie de division entre deux camps. Gustavo, 55 ans.
Ce sont des élections de mi-mandat. Pour moi, il n'y aura pas de grand changement à la Chambre des députés et au Sénat. Mais dans son discours politique, le gouvernement dit vouloir tout raser, tout est blanc ou noir. Et ça incite les électeurs à prendre une position claire. Dans mon cas, ce sera contre.
D'autres électeurs, en revanche, déposeront leur vote de confiance au président Milei. C'est le cas de Tiziana, 19 ans.
De toutes les options qu'on a, je crois que Milei est la meilleure pour le pays. Son parti, La Liberté Avance, est celui qui a le plus de propositions. Ce que j'aime de ce gouvernement, c'est son attitude, qu'il travaille, qu'il lutte pour ce en quoi il croit et qu'il te motive à avoir une Argentine prospère.
Jusqu'à présent, un peu plus d'un quart des électeurs sont allés voter. Compte tenu des enjeux de ces élections, on s'attend à un fort taux de participation dans tout le pays. Les résultats seront connus dès ce soir.
Caroline Vic à Buenos Aires pour France Culture. Eux ont voté hier. Les Ivoiriens attendent les résultats des présidentielles. Le président sortant de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est donné grand favori. Donald Trump est à Kuala Lumpur, en Malaisie, aujourd'hui, pour le sommet de l'ASEAN, l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est. Le président américain a signé ce matin des accords commerciaux avec plusieurs pays asiatiques. Des discussions sont aussi en cours avec le Brésil. Le président Lula participe au sommet et il a eu droit à un tête-à-tête avec Donald Trump. Sébastien Berriot est à Kuala Lumpur pour France Culture.
Le bras de fer qui oppose le Brésil aux États-Unis depuis quelques mois est un cas à part dans la vaste offensive commerciale mondiale lancée par Donald Trump. À la question des droits de douane, s'est ajouté le sort de l'ancien président Jair Bolsonaro, allié de Donald Trump. Dénonçant une chasse aux sorcières, le président américain avait tenté d'empêcher son procès au Brésil et en avait fait une question de principe imposant aux Brésiliens des droits de douane de 50% sur leurs produits phares, le café et la viande de bœuf. La page semble aujourd'hui tournée. Le tête-à-tête entre les deux présidents s'est déroulé dans une ambiance très cordiale. Donald Trump a affiché sa volonté de retirer ses droits de douane, volonté suivie des faits puisque aussitôt après la rencontre, les délégations du Brésil et des États-Unis, présidées par les deux chefs de la diplomatie, se sont mises au travail à Kuala Lumpur pour formaliser un accord qui doit permettre de relancer le partenariat entre les deux premières puissances de l'Amérique du Nord et du Sud.
Donald Trump qui rencontrera également le président chinois Xi Jinping la semaine prochaine. Les deux dirigeants doivent discuter d'un accord commercial. La Russie a annoncé avoir réussi les derniers tests d'une nouvelle arme, un missile de croisière à propulsion nucléaire. Sa portée est illimitée, dit Vladimir Poutine. Mais derrière le ton triomphant, qu'est-ce qui se joue réellement avec cette annonce, Claude Guibal ?
Cela fait 7 ans que Moscou dit travailler sur cette arme ultime sur laquelle fuitaient de temps en temps des informations inquiétantes. Un missile donc à la fois à propulsion nucléaire et capable d'emporter donc une charge atomique. Un Tchernobyl volant, disent les experts occidentaux. Selon l'état-major russe, le dernier essai aurait duré environ 15 heures et parcouru quelque 14 000 kilomètres. En théorie, ce missile pourrait donc rester en vol indéfiniment, fondre sur sa cible par des routes inattendues. Une arme impossible à intercepter selon les Russes, même si sa taille, 12 mètres, la rend quand même très visible et donc vulnérable. Cette annonce intervient à un moment de tension entre Moscou et Washington, alors que la rencontre prévue entre Donald Trump et Vladimir Poutine a été reportée sine die et que Washington vient de décider des sanctions contre les principales entreprises pétrolières russes. C'est donc une prouesse militaire si elle est avérée, mais surtout une posture politique à quelques mois de l'expiration du traité New Start, le dernier accord qui limite les arsenaux nucléaires russes et américains. Moscou montre les muscles au risque de raviver la crainte d'une escalade nucléaire.
Claude Guibal. Le parti des travailleurs du Kurdistan demande la libération de leur chef Abdullah Öcalan, emprisonné depuis 26 ans sur une île prison en Turquie. Sa libération est cruciale pour le succès du processus de paix avec Ankara, insiste le groupe armé. Le PKK a annoncé ce matin qu'il retirait ses combattants de Turquie pour les envoyer au nord de l'Irak. Jour de relâche pour les députés aujourd'hui avant une reprise sur les chapeaux de roue demain. Un certain nombre d'articles du budget de projet de loi de finances 2026 doivent être examinés en priorité, a annoncé hier la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin. La taxe Zucman prévue à l'ordre du jour n'en fait pas partie. Elle risque donc d'être débattue plus tard dans la semaine aux grandes dames du PS qui maintient la pression et qui brandit une nouvelle fois la menace de la censure si cette mesure n'était pas adoptée. Un autre texte doit arriver en commission des affaires sociales demain. Le projet de budget de la sécurité sociale. L'objectif, réduire le déficit de la Sécu de plus de 6 milliards d'euros. Les associations, elles sont très inquiètes. Elles craignent que les plus pauvres soient touchés les premiers, Alexis Morel.
Car l'un des principaux leviers d'économie envisagés par le gouvernement pour la Sécu, c'est l'année blanche, le gel des pensions de retraite et de toutes les prestations sociales, RSA, APL, allocations familiales, entre autres. Elles ne suivraient pas l'inflation en 2026. Bercy parle d'un effort d'ampleur modérée, mais selon une étude de l'OFCE publiée en juin dernier, ce sont bien les 5% de ménages les plus modestes qui seraient les plus pénalisés par ce type de mesure. Ils perdraient 1% de leurs revenus disponibles, contre 0,5 pour les classes moyennes, 0,3 pour les plus aisés. Pascal Brice préside la Fédération des acteurs de la solidarité qui réunit 900 associations.
On parle de minima sociaux qui sont extrêmement importants mais qui sont déjà très faibles, avec lesquels les gens survivent en réalité. Vous avez des niveaux de pauvreté jamais atteints depuis 30 ans en France. Dans ce contexte-là, ces mesures-là qui pèsent sur les plus fragiles et celles et ceux qui les accompagnent ne sont pas compréhensibles.
Autre source d'inquiétude pour les associations dans ce projet de budget de la Sécu, le doublement des franchises médicales sur les médicaments, les consultations. Le gouvernement assure toutefois que 18 millions de Français parmi les plus modestes en seront exemptés.
Deux personnes ont été arrêtées hier soir avant d'être placées en garde à vue. Elles sont soupçonnées d'avoir participé au braquage du Louvre la semaine dernière, David Di Giacomo.
L'opération est lancée dans l'urgence hier soir quand l'un des suspects s'apprête à quitter la France pour l'Algérie. Il est alors interpellé à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle aux alentours de 22h. Un deuxième homme est également arrêté dans la soirée par la brigade de répression du banditisme. Tous les deux sont originaires de la Seine-Saint-Denis, deux suspects déjà connus des services de police, notamment pour des braquages de bijouterie. Ils ont été identifiés grâce aux empreintes ADN relevées sur la scène du cambriolage. Les malfaiteurs avaient laissé sur place un casque, un chalumeau, un gilet jaune, des disqueuses et bien sûr le camion nacelle qui leur a permis d'accéder au premier étage du Louvre. Ces deux hommes sont désormais interrogés dans le cadre de gardes à vue qui peuvent durer jusqu'à 4 jours. La procureure de Paris ne tient pas à apporter de précisions à ce stade pour, dit-elle, ne pas gêner l'enquête. Les policiers, eux, cherchent désormais à arrêter les autres membres du commando. L'enjeu principal, c'est évidemment de retrouver intacts les 8 bijoux dérobés dimanche dernier.
Et le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a félicité les équipes tout en rappelant au respect du secret de l'enquête. Vous reparlerez de ce braquage avec vos invités juste après la météo, Frédéric Martel.
Absolument. Absolument.
Et justement, la météo de demain pour finir, un front pluvieux s'étend de la Nouvelle-Aquitaine à l'Alsace. Dans le reste du pays, les nuages pourraient faire place à quelques éclaircies. Pour les températures, il fera 10 degrés à Belfort, 13 à Limoges et 19 à Ajaccio. C'est la fin de ce journal. Merci à Caroline Beneteau pour la réalisation, à Valentin Bobinet à la technique.